Donc l'idée, c'était de travailler sur, la présentation d'un projet de recherche qui a fait l'objet d'un contrat de recherche clinique qui est assez récent puisqu'on a eu l'accord en juillet 2016 et les modalités administratives sont en cours, qui concerne la douleur chronique et plus spécifiquement la douleur musculo-squelettique chronique chez l'adolescent qui fait du 11-19 et l'adulte jeune qui fait du 14-15-22 à peu près, à partir d'une étude qualitative, méthode de recherche dont parlait Bernard Goltz lors de la précédente présentation. Alors moi, je suis endocrinopédiatre, je fais de la médecine de l'ado à la maison de Solène et je travaille sur la maladie chronique avec l'équipe de Pierre Cartier ici et avec Necker et avec Cochin adulte pour la transition avec le docteur Wipf et anciennement le docteur Chantal Deslandres. Et donc c'est un projet de recherche qu'on a mis en place avec le centre de référence pour les maladies rhumatologiques, l'URC de Paris-Centre, la maison de Solène et Jonathan Lachal qui est pédopsychiatre et qui est spécialisé dans les méthodes qualitatives. Et on a proposé, je vais vous raconter un peu l'histoire dont les choses se sont déroulées pour aboutir à cette réalisation. Alors le contexte général par rapport aux douleurs musculo-squelettiques, c'est que c'est un motif de consultation de plus en plus fréquent et dans la littérature internationale, les publications rapportent qu'un patient nouveau sur deux consulte pour des douleurs et on considère que celles-ci sont chroniques à partir de 3 mois d'évolution et on observe la progression de leur prévalence pour atteindre jusqu'à 30% dans certaines publications. Alors les causes sont multiples. Les causes les plus fréquentes sont les bénignes, en général en rapport avec le sport, les traumatismes, la croissance, etc. Et puis ensuite vient tout un panel de symptomatologies plus ou moins complexes, plus ou moins nommables, puisque tout à l'heure on ne pouvait pas parler de tutnialgie, donc j'en parlerai pas en disant qu'il ne vaut mieux pas en parler, mais de contexte de lombalgie, de pelvis spondylite, d'arthrite juvénile, d'algodystrophie ou de syndrome d'hypermobilité qui peuvent être des étiologies à ces syndromes douloureux chroniques. Le contexte donc de cette recherche, c'est en lien avec l'activité que réalisent les rhumatologues dans ce service de référence, qui prennent en charge essentiellement des maladies inflammatoires et systémiques, et qui sont parfois dans des situations d'expertise, de douleurs musculo-squelettiques chroniques inexpliquées, et qui posent effectivement un certain nombre de problèmes. Et ces difficultés diagnostiques aboutissent à un délai de prise en charge qui est prolongé avec plusieurs intervenants, parfois de multiples explorations, une inquiétude familiale sur l'absence de diagnostic, un retentissement psychologique souvent chez l'adolescent et son environnement, des absences voire une déscolarisation. Et le classique exemple dont a parlé Pierre tout à l'heure, c'est l'association dans des formes de pelvis spondylite axiale sans aucune manifestation d'arthrite, de savoir s'il s'agit d'une spondylarthrite juvénile, d'une fibro, mais on ne la nomme pas, ou d'une lombalgie chronique de façon, comme diagnostic. Alors, la question de cette étude, qui est un préambule à la réalisation d'un score d'orientation diagnostique, elle m'est venue à l'esprit lorsque j'ai entendu Chantal Deslandres faire un staff il y a un an à peu près dans le service où son intitulé c'était « Douleur musculo-squelettique chez l'adolescent, organique ou somatopsie, comment s'y retrouver ?» Et en fait, sa présentation a fait qu'il y avait énormément d'arguments organiques pour lui faire dire que c'était une origine somatique ou pas, et j'avais l'impression qu'elle utilisait moins les arguments autres qui pouvaient être en faveur d'une étiologie non organique aux douleurs musculo-squelettiques chroniques. Pour vous illustrer la situation, j'ai pris deux observations qui vont un petit peu illustrer la situation. Alors, le premier cas, c'est Zoé, qui a 15 ans et qui vient pour une évaluation donc, dans le service d'un syndrome douloureux musculo-squelettique chronique, qui a comme principal antécédent une sclérose en plaques chez une tante maternelle et qui a de multiples antécédents médicaux puisqu'à 18 mois, elle est diagnostiquée comme souffrant d'une oligoarthrite et du VIH avec des facteurs antinucléaires positifs, mais la normalité totale du bilan radiologique, des INS inefficaces et un début de traitement par méthotrexate est entrepris qui est arrêté pour mauvaise tolérance. Les choses s'améliorent progressivement. Le suivi se poursuit au niveau rhumatologique et ophtalmologique et l'uvéite et la chambre antérieure et la situation clinique sont calmes. En 2012, elle fait une colite à campylobacter et positive. Il y a eu pas mal d'explorations qui sont faites également avec une entéro-IRM, une colo, une fibro. Elle n'a pas de syndrome inflammatoire. Il y a toujours quelqu'un qui mesure un HLA B27 et donc il était là négatif. L'évolution est favorable. Et survient un an après une suspicion d'algodystrophie de la main droite avec une scintigraphie normale et elle est traitée par antalgique, traitement par l'aroxyl à visée antalgique. Quand on la voit, nous, elle est dans une recrudescence douloureuse extrêmement intense qui évolue depuis le début de l'été, pour laquelle il a été tenté une corticothérapie puis une immunothérapie avec de l'embrel pendant 2 mois, sans efficacité, voire une aggravation de la symptomatologie des douleurs avec des pics douloureux à 10, extrêmement fugaces, sur un fond douloureux permanent à 6, et les différents traitements antalgiques de palier 2 sont de faible efficacité. Avant qu'on l'hospitalise, elle a une IRM corps entier, elle n'a pas de syndrome inflammatoire, et elle est déscolarisée depuis la rentrée, il n'est pas possible pour elle d'envisager cette scolarité malgré de nombreux aménagements. Et donc, la clinique, quand je la vois, moi quand je me balade dans le service, quand je vais la voir dans sa chambre, elle est assise dans son lit comme une patiente hospitalisée d'un certain âge, maquillée. Elle s'est bien bougée au cours du séjour. Elle ne se plaint pas spontanément, sauf le soir où elle se plaint de manifestations plus intenses. Elle se plaint de zones d'hypoesthésie qui migrent, c'est-à-dire parfois c'est sur la face antéro-interne de la jambe, parfois c'est sur la face externe de la cuisse, parfois etc. Les douleurs également sont non systématisées et migratrices. Il n'y a pas d'affect dépressif ou anxieux franc lors des entretiens psy, puisque chez nous, on a des binômes pédiatre et psy pour chaque patient. Elle est dans un contexte d'anxiété de performance scolaire important. Son père l'appelle « ma championne ». Elle a des troubles du sommeil qu'elle met sur le compte, qui sont mis sur le compte de la douleur, mais qui sont très vite améliorés par l'atarax, qu'on utilise à visée anxiolytique à petite dose. Et il y a une inquiétude paternelle qui est majeure, qui est un chef d'entreprise international extrêmement investi, dans la prise en charge de sa fille, qui me dit « ma fille, c'est toute ma vie, s'il lui arrive quelque chose, c'est terrible ». Me demandant s'il fallait qu'il l'emmène à New York ou Washington pour faire d'autres examens. Je lui dis « écoutez, j'ai l'impression qu'elle en a déjà eu pas mal, mais bon, si vous voulez aller à New York, c'est sympa comme ville, je vous comprends ». Il y a un contexte de grande rivalité scolaire avec sa sœur, et puis au bout d'un moment, en la voyant, elle n'est pas si mal que ça, se plaindre surtout quand les parents sont là. Voilà, on évoque la possibilité, pour ne pas la déscolariser, poursuivre la prise en charge, permettre une prise en charge de la douleur à travers une médiation corporelle, type balnéo, etc. Un soin étude. Et là, tout de suite, c'est non. Il y a des aménagements qui sont faits de la part de l'adolescente et de ses parents pour qu'elle sorte. Elle part à New York pendant les vacances parce qu'elle y tient beaucoup, mais apparemment, ça a été pour faire du tourisme, hein, pas pour aller sur l'hôpital local. Et en fait, elle retourne au lycée tranquillement. Et ce matin, en fait, j'ai changé de diable parce que je trouvais que Zoé était assez informative. Ce matin, j'ai appelé son médecin traitant pour savoir comment elle allait. Et elle va pas mal. Elle est retournée à l'école. Et elle a pu dire qu'une partie de la clinique qu'elle avait rapportée là était construite. On ne sait pas bien pourquoi encore, puisqu'elle refuse d'aller voir le psychiatre. Mais en tous les cas, il y avait quand même des éléments objectifs ou subjectifs qui pouvaient orienter, dans une certaine mesure, la clinique chez cette jeune fille. Vite fait, une autre patiente là, qui avait été présentée par Chantal Deslandres, une jeune fille qui, à la première consulte, se plaint de poignets, de chevilles, de genoux, avec une asthénie matinale sans raideur, qui est traitée par anti-inflammatoire, avec toujours ce pauvre interne d'orthopédie, qui va mettre 9 plâtres en 3 ans à cette jeune fille. Voilà. Non, en général, moi, je les appelais Michael, mais j'ai vu qu'il y avait un psychologue qui s'appelait Michael, donc quand on entend orthopédie et psychologue, c'est pas la même chose, mais bon. Donc voilà, plusieurs entorses de cheville, 9 plâtres en 3 ans. En 2009, elle se plaint de douleurs permanentes, des chevilles, des genoux, des mains. Elle a un HLA B27 qui est positive, sans syndrome inflammatoire. Elle est traitée par anti-inflammatoire, corticoïdes, etc. Elle a des lourds antécédents familiaux, puisqu'elle a une mère qui a une spondylarthrite ankylosante qui est traitée par anti-TNF-alpha et qui est en dépression depuis 2010. Son père a un bas dos. Sa grand-mère maternelle est fibromyalgique. Je pense qu'on peut le dire chez les adultes, fibromyalgie. C'est interdit chez les moins de 18 ans, mais après, c'est possible. Elle a un état bipolaire et le grand-père paternel a un psoriasis et lui est HLA B27 positif. Donc, une clinique extrêmement riche, tant du point de vue somatique que du point de vue psychologique ou psychiatrique. À l'examen, elle a un petit surpoids, pas de synovite, rachis souple. Des douleurs qui sont un peu bizarres sur les faces latérales des poignets et des chevilles, pas d'inflammation, pas d'anomalie radiologique. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle a une spondylarthrite, une forme débutante, ou est-ce qu'elle a des douleurs qui sont fonctionnelles? Elle est traitée par anti-inflammatoire et l'aroxyl. Et l'évolution se fait en dents de scie, avec 3 mois plus tard, une aggravation de la symptomatologie, des difficultés pour écrire, une déscolarisation avec des douleurs qui sont multiples, sans anomalie objectivable, pas de synovite, pas d'anomalie du rachis, pas de raideur, pas d'inflammation des sacroiliacs. Et donc, les anti-inflammatoires sont arrêtés puisque sont sans efficacité. Et il est prévu une rééducation avec kinésithérapie, traitement antalgique, et on l'hospitalise pour faire un petit peu le point. Et au cours de son hospitalisation, on se rend compte que cette jeune fille qui présente cette symptomatologie extrêmement fluctuante présente des traumas qui a concerné sa grand-mère qui est décédée peu de temps avant, un accident de la voie publique d'une amie qui est dans le coma. C'est une enfant qui est assez inhibée, où il n'y a pas de syndrome dépressif majeur, ou marqué plutôt. Elle a un conflit avec sa mère qui est fréquent sur l'alimentation et la scolarité. Je vous rappelle qu'elle est un peu en surpoids, et qui sont centrés sur les douleurs. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, il y avait des histoires de douleurs en miroir, là, où la mère et l'enfant parlaient qu'à travers leur symptomatologie douloureuse. Le père et la sœur sont à l'écart, et donc il est prévu un suivi psychologique, la mise en place d'une thérapie familiale. Ils adhèrent au projet. Ça aboutit tellement bien qu'en 2013, elle a plus mal. Elle reprend des activités. Le suivi psychologique est interrompu, peut-être prématurément, parce qu'en mai 2015, ça recommence, elle repart sous la roxy sous-antalgique. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une récidive des difficultés antérieures psychologiques? Est-ce qu'il s'agit de l'apparition d'une maladie organique? C'est toute la difficulté, parfois, qui est à faire entre telle ou telle étiologie. Et donc, la problématique, c'est trois cas possibles face à une douleur musculo-squelettique chronique. Soit on a des arguments pour une maladie organique, et quand on pense aux diapositives, comme nous a montré Pierre Cartier, quand il y a un énorme genou inflammatoire avec du jus, là, il n'y a pas de problème, le diagnostic est posé. Soit il n'y a pas d'argument clair pour une maladie identifiée, la question c'est est-ce que c'est une forme débutante ou fruste, ou est-ce que c'est un trouble fonctionnel? Et puis soit la pathologie organique existe, mais il existe une aggravation de la symptomatologie, est-ce qu'elle est en lien à l'aggravation organique, ou est-ce qu'elle est en lien à des difficultés psychologiques ou psychosomatiques, maintenant je ne sais plus comment dire, en tous les cas, par rapport à... Comment? Je ne dirai plus rien. Donc est-ce qu'il s'agit d'une poussée ou d'une intrication somatopsie? Et donc, la question que j'avais posée à Chantal Deslandes, qui malheureusement partait à la retraite, qui est encore consultante à Necker et Robert Debré, je lui disais, mais est-ce qu'il y a un score diagnostique qui permet de faire les choses? Parce que ça existe souvent en rhumato, il y a des arguments, il y a des items qui sont pondérés en nombre de points. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs? Elle me dit, à ma connaissance, non. Je lui dis, tiens, si à votre connaissance, non, ça commence pas mal pour imaginer pouvoir réfléchir au problème. Et donc la question qui se posait, c'était comment on pouvait essayer de faire un outil d'orientation diagnostique pouvant orienter soit vers une cause organique, soit vers une cause fonctionnelle de cette symptomatologie, à partir de quels éléments en lien avec la symptomatologie et selon quelle modalité de recueil. Et donc l'idée, c'est dans ces situations, quand on a ce genre de questions, la façon de procéder, la meilleure façon de procéder, ou en tous les cas la moins mauvaise, c'est l'analyse qualitative. Et donc, l'idée de la méthode qualitative, c'est de décrire, comprendre. C'est une méthode qui est inductive, qui examine beaucoup d'idées à partir d'un échantillonnage qui est censé couvrir le maximum de représentations ou des concepts sur le problème. Avec des renseignements, si possible étoffés, contextuels, détaillés auprès d'un petit nombre de participants. Et par exemple, la question qu'on pose là, dans ce projet de recherche, c'est quelle est l'expérience des professionnels concernés? Quelle est votre perception par rapport à une douleur musculo-squelettique chronique? Donc, on a regardé un petit peu la littérature avant de se lancer. En France, il n'y a pas d'études sur ce sujet en rhumatologie. Il y a beaucoup de quali en France sur la transition, sur les unités d'enfance, sur les unités d'adultes. Au niveau international, il y a énormément de publications qui sont faites à partir d'études qualitatives sur la symptomatologie douloureuse rhumatologique, mais pas sur des situations de comparaison entre les formes psychosomatiques ou les formes organiques. Et donc, on s'est lancé en faisant ce projet de recherche, en fait, où l'idée était d'explorer les représentations de ces douleurs par les professionnels qui les prennent en charge. Et donc, à travers des questions, de dire comment se passe la rencontre, quelle est la place du symptôme au cours de la consultation, quelles sont les techniques cliniques et outils paracliniques que vous utilisez, et à la fin, quelle est votre perception de l'histoire du symptôme. Et donc, l'idée, c'était d'approcher à travers toutes ces expériences professionnelles. Ce sera d'approcher à travers toutes ces expériences professionnelles la compréhension et l'origine du symptôme douloureux et de sa prise en charge. Donc la méthode O, elle n'a rien à voir avec la recherche qui était proposée précédemment. C'est une étude qui est transversale, observationnelle, non interventionnelle, avec une démarche qualitative, phénoménologique et inductive. Alors on va l'adresser aux professionnels médicaux et paramédicaux, avec toutes les fonctions possibles, puisque ce qui est intéressant, c'est d'avoir un maximum d'informations. Donc ça va concerner tous les médecins qui sont en lien avec ces patients, c'est-à-dire rhumatologues d'enfants, rhumatologues d'adultes, médecins de la douleur, médecins psychiatres, médecins de rééducation, médecins d'ados, j'espère que je n'en oublie pas. Et pour les professions non médicales, c'est infirmiers, c'est ergothérapeutes, c'est kinésithérapeutes, c'est psychologues, j'espère que je n'en oublie pas non plus. L'idée, c'est d'avoir le maximum de perception de leur situation quand ils rencontrent des adolescents douloureux chroniques, quelle que soit la cause, le motif de consultation, hein, l'origine de la douleur. Et donc, c'est précédé au niveau méthodologique par un entretien d'information qui expose le projet. On propose une information écrite et un formulaire de consentement et on recueille les données socio-professionnelles, ce qui permet après d'étudier en fonction des profils professionnels, des similitudes ou des façons de penser un peu différentes. La méthode proprement dite, l'entretien de recherche, donc il est démarré après le recueil des consentements, c'est des entretiens qui sont semi-structurés, qui durent 45 minutes, et c'est le même chercheur qui va se faire les 15, 18, 20, 22, on verra à peu près le nombre d'entretiens qui sont nécessaires, qui sont enregistrés et qui vont être transcrits totalement et anonymisés. Et cet entretien, il est fait à partir d'un guide qui est construit par l'équipe de Rhumato et l'équipe qui s'occupe de la méthode Cali, de façon à proposer des questions starter qui vont permettre d'enclencher la discussion, en sachant que c'est totalement évolutif, puisque si d'autres thèmes sont abordés par la personne interrogée, on la laisse faire, et en considérant que la personne interrogée est l'experte et que nous, on ne sait pas. La personne qui interroge ne sait pas, et celle qui décide du déroulé, de la priorité, des choses qui lui paraissent importantes, c'est la personne qui est interviewée. Et donc l'idée, c'est de recruter jusqu'à saturation des données. Globalement, quand on interroge entre 15 et 20 personnes qui connaissent bien le sujet, on a une redondance des informations, et ça permet de dire qu'il n'y a rien de nouveau, et on n'a pas intérêt à en faire davantage, si ce n'est que de devoir traiter plus d'informations. Donc cette analyse, elle s'appelle, donc c'est une orientation phénoménologique où la personne interviewée étudie le sens, et ça on en a pas mal parlé en début d'après-midi, et David Le Breton en a pas mal parlé, le sens que le sujet construit à partir des expériences vécues à travers cette consultation d'un patient souffrant de douleur. Et donc l'analyse va être réalisée par trois chercheurs, c'est un système de triangulation, et où tous les interviews qui seront tapées Word seront ensuite codées. Et en fait, des mots, des phrases, des paragraphes qui ont des unités de sens seront regroupés en thèmes. Et ensuite, ces thèmes vont être connectés en métathèmes ou en axes pour organiser l'entretien à travers des thèmes cohérents. Et ensuite, avec les différentes interviews, on réalise des métaconnexions de façon à pouvoir mettre en perspective ces différentes perceptions des soignants dans leur ensemble sur la symptomatologie. Et donc l'idée est de décrire l'ensemble, un récit d'expérience vécue et la perception par le soignant de cette symptomatologie. Et donc chaque métathème est relié au thème sous-jacent, qui est relié aux annotations, et l'idée c'est de faire des allers-retours entre métathème, thème, codage, codage, thème, métathème, de façon à vérifier que les regroupements sont cohérents, et la triangulation permet également de vérifier que nos associations sont correctes et sont partagées par l'ensemble du groupe de recherche. Et l'idée également, c'est d'analyser chaque interview l'une après l'autre, puisqu'on peut avoir, en fonction des réponses, une réorientation des questions starter qui vont permettre d'enrichir l'interview suivante. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle, c'est quelque chose de moins codifié que la recherche que vous aviez présentée tout à l'heure, qui était extrêmement structurée. Celle-là est plus évolutive d'une interview à l'autre. Alors, quels sont les résultats et perspectives? Donc, on commence. Hein. Donc là, moi, je suis allé à la DRC pour. Donc, c'est un contrat de recherche clinique. Donc, c'est l'AP, c'est Saint-Louis. Donc, il faut qu'ils aient toutes les autorisations administratives. Enfin, c'est tout un bazar. Nous, on est prêts depuis juillet. Voilà, ça n'a pas commencé parce qu'il faut l'accord du CPP, machin. Donc, on espère pouvoir commencer d'ici mars-avril. Et donc l'idée est d'analyser les perceptions des professionnels et les implications diagnostiques d'orientation et de prise en charge. Et la perspective, c'est de compléter cette banque d'informations par celle qu'on va rechercher aussi auprès des patients douloureux et de leurs familles. L'idée étant d'avoir une banque de données qui pourrait permettre d'élaborer, mais là c'est un autre type de recherche qu'il faudrait proposer si les choses se passaient bien sous forme d'un PHRC, parce que faire un score diagnostique, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps, et d'essayer d'utiliser tout ce matériel clinique obtenu à travers les patients, leurs familles et les soignants pour essayer de faire un score qui oriente plutôt la douleur musculo-squelettique vers une origine organique ou une intrication ou une dominante psychosomatique. Voilà, j'espère que l'année prochaine, je pourrai vous proposer les résultats. Enfin bon, avec l'AP, peut-être que c'est 2019, hein, il vaut peut-être mieux être prudent. Merci pour votre attention.